émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, le Cubo. Avec Marie-Josée Saliou et Yves Yacoel. Bonsoir, chers amis. Et vous avez pu constater la semaine dernière, avec l'émission avec Yves Yacoel, que nous avons terminé sur les chapeaux de roue. Nous n'avons pas pu dire tout ce que nous voulions. Alors nous avons décidé avec Yves de faire une deuxième émission. Et il s'est trouvé que Yves m'a fait connaître notre deuxième invité, Marie-Josée Saliou, que je remercie d'être avec nous ce soir. Et donc, voilà, ce soir, on va continuer sur notre lancée. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter Marie-Josée. Alors, j'ai trouvé quelques informations sur Internet que je vais donner. Alors, Marie-Josée Saliou, vous êtes psychologue clinicienne de formation. Vous avez exercé dans la recherche en innovation, éducation, culture au CNRS et en privé, à la direction générale d'un institut supérieur de management culturel. Vous avez été professeur associé à mi-temps à l'université d'Angers en sciences humaines. Voilà, tout ceci je l'ai trouvé sur Internet, mais par rapport à tout ce que vous m'avez raconté lorsque nous avons préparé cette émission, eh bien, écoutez, je vais vous donner la parole et je vais vous demander de vous présenter. Je vous en prie.
Oui, je vous remercie. Mais la recherche, pour moi, c'est être en éveil. Mmh. Et donc, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la recherche, enfin, avant de rentrer au CNRS, à Dakar. À la fin de... c'était à la fin de ma maîtrise. Et à l'hôpital psychiatrique de Fan, à Dakar. Et je crois que il me semble que cette expérience auprès d'un professeur, Henri Collomb, qui a formé beaucoup de psychiatres, dont un qui est très connu en France aujourd'hui, Tony Nathan, a été pour moi très, très importante parce que je me suis rendu compte que la pathologie mentale était très, très liée au système de société et de vie des hommes dans des institutions comme la famille, le travail. Et donc, ça a orienté beaucoup ma vie professionnelle qui, de la psychologie clinique, s'est élargie à l'ethnologie et de l'ethnologie à la recherche appliquée dans le domaine de l'éducation et ensuite des arts et de la culture qui sont vraiment une part importante de ma vie.
Vous m'avez dit avoir été très influencé par une certaine personne.
Oui, il se trouve que mon patron de recherche était une femme qui était très proche de Marie-Josée Chambardelot. Et quand j'ai travaillé en Afrique, je m'étais beaucoup servi, parce qu'à l'époque, mon travail était surtout un travail livresque j'étais toute jeune, quand je suis arrivée en Afrique. Je m'étais servi des travaux de Marie-Josée Chambardelot et de son époux, qui avait travaillé donc en tant qu'ethnologue sur les sociétés africaines. Et cette femme, je l'avais suivie par la suite. Elle m'a été une inspiratrice importante à partir de son expérience de résistante dans les camps, dans ce travail horrible qu'on lui a fait faire avec les petits-enfants. Et à cette époque-là, moi, je travaillais beaucoup dans les crèches, donc... Je me suis appliquée autant que faire se peut à faire que les enfants aient une mobilité, grandes dans les crèches, que leur corps, leur esprit soit éveillé, et faire aussi beaucoup d'explications avec les parents. Et ça, j'y tiens beaucoup, et j'espère que mon travail n'est pas terminé dans ce domaine-là.
Ben, c'est sûr. Il faut dire un petit mot de Marie-Josée Chambardelot, parce que peut-être tout le monde ne la connaît pas. C'est une grande résistante, c'est de 40 à 45. Elle n'a pas arrêté d'être résistante au péril de sa vie. Elle a d'ailleurs été arrêtée, elle est allée en prison. Elle en a réchappé de justesse, mais elle a énormément travaillé dans différents groupes. Et voilà, c'est une personne très très importante. Elle est d'ailleurs venue il y a quelques années à l'université Arès, où mon épouse Renée Drey-Bensoussan l'avait invitée lorsqu'elle traitait le thème des résistances. Voilà, voilà pour elle, et je ne suis pas du tout étonné que cette personne vous ait pas mal inspiré aussi. Alors, il y a autre chose aussi. Vous m'avez dit avoir fait des rencontres, beaucoup de rencontres importantes, grâce à certaines personnes.
Oui, quand je dirigeais l'Institut supérieur de management et d'ingénierie culturelle, c'était au moment de la décentralisation culturelle en France, et donc il fallait apporter faire que des jeunes puissent se former à l'administration, à la programmation, à la production dans le domaine des arts et de la culture. Et à ce moment-là, donc dans le domaine de l'ingénierie, en effet, j'ai été amenée à suivre un projet, à part l'intermédiaire de mon ex-époux, qui en ingénierie culturelle, et donc qui était le fondateur d'ingénierie culturelle, et c'était le projet de Danny Caravan. Et j'ai eu la chance ensuite, en allant en Israël et dans le Negev, pour une toute autre cause qui était celle des justes, du plateau du Chambon-sur-Lignon, enfin dans le Vivarais, mais d'aller sur ce monument aujourd'hui qui s'appelle Monument du Negev. Et je parle de ça parce que le travail de d'Yves Yacoel, qui m'a invité à cette émission, est proche de cette ambition de travailler avec l'eau, avec la nature, avec l'arbre, les arbres et le béton, et travailler sur le béton, et comment on transforme le béton à partir d'une vision d'artiste. Voilà.
Bien, vous m'avez dit aussi, vous voyez, je me souviens de tout ce que vous m'avez dit aussi beaucoup apprécier l'art abstrait.
Oui. Ben oui, je crois que pour moi, l'art, il est avant tout abstrait. Enfin, pour ma génération.
Oui.
Parce qu'il y a des choses qu'on peut plus... Enfin, oui. L'art abstrait, mais ce qui me plaît dans l'art abstrait, c'est sa manière de... C'est la manière dont les artistes, comment dire, l'approfondissent, soit dans la couleur, soit dans les rythmes, dans les vibrations. Et aussi cette transdisciplinarité avec le domaine de la danse, de la musique. Et ça, c'est, je crois, que la force de notre époque, que faire que tous ces gens se croisent, se rencontrent, travaillent ensemble. Et ça, c'est vraiment l'aventure importante des artistes, aussi bien de l'art vivant que de l'art conceptuel.
Un dernier point. Vous avez beaucoup travaillé avec les enfants.
Oui.
Et je voudrais quand même citer juste une petite chose, parce que c'est une petite,
oui,
mais quand même qui a son importance.
Oui.
Vous avez travaillé avec ADS, non ?
Oui, oui, mais j'ai surtout travaillé avec le domaine DAS, oui, de Seine-Saint-Denis, au moment de la création de l'ouverture des crèches. Parce,
oui,
que les crèches, la notion de crèche qui s'est beaucoup inspirée des kibbutz, des kibbutz, de l'Oxy en Hongrie, enfin, oui, de tous ces enfants qui à un moment se retrouvaient, alors dans les crèches les enfants ont des parents, mais c'est libérer les enfants, leur corps, leur permettre de faire les premières sensations, les premiers apprentissages, c'était pas du tout à l'ordre du jour quand j'ai commencé mon travail dans les années 72. Et donc j'ai eu un travail passionnant dans les crèches d'Aubervilliers, Saint-Ouen, Pantin, voilà, toute cette banlieue nord où les politiques étaient très investis dans ce domaine parce que les femmes le demandaient pour aller travailler. Et j'avais commencé par une étude sur le travail des femmes. Et j'avais cette étude que j'avais faite pour la DAS. Et en fait, les femmes employées de Seine-Saint-Denis étaient absentes 14 heures de leur domicile. Donc la responsabilité des politiques, parce que je les salue au passage, ils nous ont fait confiance sur des méthodes innovatrices. Et la responsabilité des politiques, c'était de faire que ces enfants, ils ne soient pas derrière des barreaux, mais comme des pendant ces 14 heures, enfin ou du moins les heures d'ouverture des crèches. Voilà.
Je vous remercie, Marie-Josée Saliou.
Et je voudrais continuer dans ce domaine parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire dans la formation, dans le lien avec les parents. Les parents doivent être associés et ça c'est un travail qui doit être fait à la crèche, à l'école maternelle, le plus possible associé à ce que les institutions apportent.
Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on est en voie de le faire?
J'espère parce qu'il y a les pédagogues, mais il y a tout ce travail d'accompagnement des parents et ça, moi je prenais sur mes soirées et mes nuits pour le faire, parce que je crois qu'il faut faire ces réunions d'explication, de débat, de confrontation, parce qu'il y a des modes culturels complètement différents aujourd'hui. Notre société est partagée par des modes, des valeurs, des principes culturels et religieux et autres très différents. Donc il faut que les gens se comprennent.
Merci Marie-Josée. Alors Yves Yacoel, on a fait une émission la semaine dernière, donc on t'a bien présenté, mais enfin, on va quand même dire deux mots. Le titre de l'émission de la dernière fois, c'était « La plat et le volume ». Alors rappelons quand même que tu es le pionnier du pixel sticker, que tu as collé tes stickers par le monde, partout, à New York, à Paris, ailleurs, partout. Mais tu as dépassé ce stade du sticker à deux dimensions pour aller vers le, on va dire, entre guillemets, le sticker à trois dimensions. Et c'est ainsi que, par exemple, tu as fait le Cubo en 2013 lors de la manifestation Marseille Capitale Culturelle. Et donc, tu es passé à un autre volume. Voilà. Alors, on va aborder ce problème, mais avant. On a parlé d'un artiste plasticien. Je voudrais vous poser à tous les deux la question, qu'est-ce qu'un artiste plasticien ?
J'ai envie de laisser la parole à Marie-Josée, Saliou, et puis après j'essaierai d'évoquer ce qui est l'idée plastique de la chose.
Marie-Josée ?
Ouais, humblement, je dirais, ce que j'ai compris, c'est celui qui voit, qui fait ce que les autres ne voient pas et ne sont incapables de réaliser. Donc c'est un visionnaire.
Oui. Oui, mais est-ce qu'on peut pas dire ça de tous les artistes? Là, on est chez les plasticiens.
Il fait, j'ai dit. Il réalise seul sa sculpture, sa peinture, ou avec des instances publiques. Par exemple, Danny Caravan, Yves ont affaire à des responsables politiques, publics. Enfin, quand dans la construction de leur œuvre, c'est pas simple.
Yves,
j'ai essayé de donner quelques sentiments de cette définition. Pour moi, alors que qui êtes-vous? Artiste plasticien, donc on veut tout dire et ne rien dire dans tout cela. Et tout de même, cette idée de plastique, donc c'est essayer de plastifier. Alors bon, voilà, on peut aussi développer l'idée de plastifier une idée et surtout la forme, c'est-à-dire qu'on essaie de s'employer à créer un système de forme, de volume, d'espace et de creux, je dirais, à travers l'idée d'être un artiste plasticien. Et puis ce qui me plaît, c'est l'idée de plastique. Donc en fait, là j'y vois quelque chose d'explosif, et donc il faut faire exploser effectivement les frontières, les nouvelles frontières, si possible, des incursions artistiques et mentales. Donc là je rajouterais, ce qui est important, c'est de créer en fait une plasticité à des modes de pensée. La pensée devrait être en plastique, voilà. Donc après, on peut développer cet aspect, oui. Mais donner du sens à la plasticité.
Alors, quand tu parles de plasticité, ça me rappelle une idée que tu avais émise, c'est que le monde est éphémère. il n'y a rien de figé. Alors, est-ce que c'est lié avec cette plasticité?
Oh là là, c'est j'ai du mal alors comment me sortir de cette de cette question, de cette proposition. Comment s'en sortir? Eh bien, si, c'est une plasticité qui est toujours en mouvement, en fait. C'est-à-dire que là, il va s'accoler, c'est le cas de le dire, à l'idée du pixel et de, du pixel sticker. Donc, plasticité qui a son indépendance et qui voyagera éternellement et en permanence.
Bien. Autre chose à dire, Marie-Josée ?
Oui, l'artiste transforme aussi le paysage. Voilà. Moi, je suis beaucoup, j'ai été beaucoup impressionnée par, par les artistes qui interviennent, soit dans la ville, par, ou dans des espaces, nouveaux, qui font voir l'espace de manière différente. Vous voyez, c'est important.
Bien. On va faire une petite pause musicale. Et c'est Yves qui a choisi cette première pause musicale. C'est L'île nue.
Chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre, dit-il.
Au niveau filmique.
Ni le chant d'un oiseau, ni le cri d'un ruisseau.
Voilà, je vous rappelle que ce soir, nous sommes avec Marie-Josée Saliou et Yves Yacoel pour parler, pour réfléchir, pour parler autour du cubo. Alors, je vous signale quand même que ce morceau que vous venez d'entendre est tiré de, du film L'île nue. Et c'est, je vais essayer de le dire correctement, Hikaru Yahashi qui a fait la musique. J'espère que je l'ai dit correctement. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait du passage de Yves Yacoel de la plat au volume. Et alors, un des exemples, c'est le cubo, justement, le titre de cette émission. Alors, ce cubo, quelle est la symbolique du cubo ?
Merci de, d'avoir invité le cubo, d'ailleurs, en fait. Voilà, je vais dire ça. Bon, moi, je voulais pas rester à plat. Donc, je veux toujours essayer de ne pas être le, être dans la, de ressasser les mêmes histoires. Et donc, la plat du volume, non, oui, la plat du volume. Je voulais passer par cette nouvelle grande révolution qui est la, la 3D, comme on l'avait indiqué la, la dernière fois. Et le cubo me semblait m'est venu à l'esprit pour des raisons je dirais fluides et engendré un cube qui était en fait le suivi du pixel, puisque c'est un voxel, et qui là vogue sur les eaux comme un bateau. Alors évidemment, il y a quelque chose de tout à fait troublant, parce qu'un cube dans de l'eau, c'est l'antithèse d'une certaine façon d'un bateau, d'un navire. Donc effectivement, l'eau, c'est quelque chose qui se meut en fonction de tout. Et là, cette mer, cette eau, cet océan se confronte aux angles du cube. Donc symboliquement, il y aurait beaucoup de choses à dire si on en avait énormément de temps. Et même dans la religion juive, l'idée d'impliquer un cube dans l'eau, les arêtes, les coins, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui se trouve dans la religion juive.
Alors, il faut quand même préciser, justement, que ce cube n'est pas à plat dans l'eau. Il est vers la pointe, hein, c'est ça. Et oui. Ça, c'est très important, non ?
Oui, c'est vrai qu'il se tient sur sa pointe. Donc ça, c'était un challenge aussi, parce que je voulais pas avoir un cube qui resterait à plat. Alors voilà, on retrouvera encore une histoire terrible d'être à plat. Et donc, je voulais le mettre sur sa pointe. Effectivement, là aussi, il y avait une prouesse, même technique, avec le chantier naval Meta, d'y mettre une quille qui soit lestée d'une quille, et de façon à ce que ce cube flotte sur l'eau, sur sa pointe. Oui. Très important.
Alors, Marie-Josée Saliou, lorsque vous avez parlé de ce cube avec Yves, vous lui avez dit il va falloir le faire naviguer sur les eaux. Et je crois que vous avez répondu quelque chose d'un peu particulier, non ?
Oui, je pensais au port de la Méditerranée, aux différentes villes qui auraient pu accueillir ce cubeau en faisant... voilà. Et non, Yves me répond, non, je le vois dans le désert. Je voudrais le conduire dans le désert. Ah ! Alors là, les artistes ont toujours raison, donc j'ai pensé au Negev. Mmh. Parce que je dis, il te faut un désert bien protégé pour ton cubeau. Et le Negev, c'est un des déserts les mieux protégés, avec l'armée israélienne qui arrive en masse, les nouvelles technologies. Mmh. Voilà, mais c'était à la fois une blague, et pas vraiment, parce qu'il y avait aussi ce grand artiste, Danny Caravan, qui a fait quelque chose dans le Negev, que le Negev, c'est un pari sur d'amener de l'eau dans une région totalement désertique, qui m'a beaucoup impressionné. Enfin, c'est un lieu. Donc voilà le cubo.
Alors Yves, le cubo dans le désert. Raconte.
C'est très bien, parce que pour moi, mettre un cubo, le cubo qui signifie l'eau, puisqu'il est peint d'eau, d'une nuance de vibration d'eau, le mettre dans le désert, c'est pour moi très important, parce qu'il y a l'idée qu'il pourrait jaillir comme une sorte d'oasis, comme promesse. Et je trouve que là, on s'approche d'Israël très fortement, avec déjà la promesse du peuple juif de pouvoir y venir et de pouvoir s'abreuver. Donc, quand on voit la complexité du phénomène de l'eau de par le monde et en Israël, et comme j'y suis allé plusieurs fois et travaillé au kibboutz, ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que je travaillais sur l'irrigation pour les cacahuètes. Donc, je me suis vraiment approcher de cette culture et du phénomène de l'irrigation, là mais ailleurs, c'était le kibboutz Karmia entre autres, et donc oui, je vois tout à fait une oasis, une promesse, comme donc avoir ce cube évoquant l'eau a beaucoup de symboles en fait, parce que moi je remarque une chose, c'est que dans différentes religions monothéistes, le cube est présent. Il est présent dans les prières juives, en mettant les téfilines et le cube sur le vin. Donc très important. On le voit aussi dans les processions de la Mecque, où il y a ce cube qui est là, où les gens tournent autour, donc comme une sorte, je dis pas de danse, mais comme happé par ce cube. Mais en fait, quand on sait, entre autres, ce qu'il y a dans ce cube, qui est une pierre, du minéral, donc là, nous approchons de la symbolique très très forte judaïque du fait du minéral et de l'eau. Donc c'est pour ça que ça me touche très profondément, de l'imaginer dans le Negev, bien évidemment, et puis de savoir, là aussi, faire ressurgir l'eau, alors qu'en fait, tous les déserts sont d'anciennes mers, qui sont en dessous, d'ailleurs, et qui reposent ou qui ne reposent pas si on les fait jaillir éventuellement. Donc voilà, il y a un tapis de sable, l'eau est en dessous, et là, subitement, un cube apparaît, il aurait dû être minéral a priori puisque dévoilé par une eau qui n'existe pas, et là non, il s'est cristallisé et il est là bien présent, et comme je reviens à dire, comme une promesse pour l'agriculture, pour les êtres humains. Donc voilà.
Je vais parler un petit peu à la façon de Yves Yacoel. Comment tu écris oasis?
Ah.
Oh là là. Est-ce que tu vas le couper en deux? O. C'est ce que tu fais d'habitude.
Oui, bien, oui. Il y a de, bah, tu vois, oui, ça serait oasis, oui, oasis. Et donc on est, voilà, on se trouve encore dans des symboles, comme je reviens toujours à dire. Et bon, j'ai pas, tout est symbole, tout est décrypté, tout est à couper et à reconsidérer et recréer des mariages.
Marie-Josée, vous acquiescez?
Je suis éblouie par ce que vient de dire Yves, parce qu'il a vraiment superbement parlé de ce projet dont il m'avait fait part quelques jours avant l'émission, avec, je vois son cube dans la lumière du soleil, le vent, le sable, et puis des arbres, bien sûr, parce que maintenant, dans le désert, il y a des arbres, et en relation avec l'histoire du lieu.
Oui, l'histoire de... Et puis, il y a peut-être ce côté échoué. Alors voilà, je reviens à une forme poétique des choses, mais ce peuple juif qui a échoué, entre guillemets, dans ce désert, il a une part prenante du désert, il peut parler du minéral. Et à tel point que quand on voit, là aussi il y a des symboliques très fortes, avec l'histoire de la mer qui s'ouvre pour laisser passer ce peuple juif fuyant l'Égypte. Donc là aussi je me posais cette question aujourd'hui en me disant, mais cette mer, la mer M-E-R, mais la mer maternelle aussi, qui s'ouvre de moitié comme une sorte d'offrande et de naissance, et là apparaît un peuple qui peut passer son chemin. Donc il y a plein de symboles qui, moi, me séduisent très profondément.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent, avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
ADN de pixel. Le pixel sème le trouble dans les enjeux de l'effacement. Il met la gomme. On entend derrière l'écran, il court, le pixel du bois joli. Nouvelle étape d'une mémoire graphique qui renaît de ses cendres, poussée par une technique qui se fait insaisissable. Il s'illustre de pixel pensant. Aux hommes de prendre la parole. Rêve de page blanche d'un écran gris souris au grain impalpable. Ils font penser au talc ou à une poudre de riz rendant la fantasmagorie de leur propre visage, animé ou figé sur la rétine d'un écran toujours plus fin. Pixel à l'image d'une société myrmécophile, sans révéler l'ordonnance première de celle-ci. Les questions se posent. Sommes-nous bâtis dans cet ordre des choses sans le savoir ? Virtuel cloné au réel. De l'art ou du cochon, il n'en est rien. Plus de graisse, seulement l'enveloppe. Il suffirait d'un souffle pour nous dire que tout est poussière de pixels. Ainsi, le futur, offrant l'air libre en aire de projection au lien d'un arbre généalogique sans racines, pris aux ordres du subliminal qui vivra, verra. Et le A est à arrobase. C'est en 2002.
C'était en 2002, c'est un texte qui fait partie de ton livre, je crois, Nature dépaysée.
Oui, tout à fait, il a été...
Alors, juste une petite information pour nos auditeurs, myrmécophile, ça veut dire
La société des fourmis.
La société des fourmis.
Donc proche des pixels.
Tout à fait, tout à fait. Marie-Josée Soliou.
Oui. C'est un univers que je connais peu. L'univers des pixels, mais si on nous laisse prendre la parole, ça ira.
C'est un pixel pensant, hein,
oui.
Dieu.
Oui, pixel pensant, parce que, pardon, je ne vais pas troubler, mais c'était très important de mettre ADN de pixel, parce que là, c'était un langage de l'infini, de l'impalpable, sauf les scientifiques qui ont révélé l'ADN, je dirais, nos ADN, ce qui est absolument une révolution inimaginable, qui a finalement, je ne sais pas si les gens se rendent compte de cette folle révolution humaine, elle est considérable. Et l'associer et dire que finalement le pixel, qui lui aussi est impalpable quelque part, c'est une notion mathématique, lui donner de l'ADN, ce sont vraiment deux rapports à l'infini. Donc c'est une chose qui me va bien.
À l'infiniment grand et l'infiniment petit.
Tout à fait.
Bien. Alors, puisqu'on parle de tout un tas de choses là, je voudrais que tu nous parles de ta contribution sur le kibboutz ou l'utopie vivante.
Alors, l'utopie vivante, c'est effectivement le titre d'un livre qui s'appelle Kibboutz, Utopie vivante. Qui a été écrit par Aric Delouya, avec une préface de Serge Moscovici. Alors pour moi, donc je n'ai pas écrit ce livre, à la seule différence, mais je le dirais juste très rapidement, j'en ai fait la couverture, on m'a demandé de faire une couverture, donc je l'ai faite. Mais pour moi, le kibboutz, utopie vivante, c'était du concret, puisque moi j'y ai travaillé, et c'est un endroit, enfin une possibilité qui de travail et de vie qui me séduit énormément. Et je garde toujours un souvenir très très fort pour cette idée de ce qu'on pourrait dire. Est-ce que c'est une utopie maintenant ? Évidemment, il a évolué ce kibboutz. Le kibboutz a tout de même été réalisé pour créer cet état, enfin pour créer cet état, pour nourrir les gens de cet nouvel état qui est devenu un état. Donc l'agriculture était là présente, il fallait agir très 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 vite, d'où d'ailleurs toutes les bases premières et cette avancée fulgurante que peut avoir Israël sur le fait phénomène de l'eau et comment nourrir d'eau d'une façon minimaliste les terres. Donc voilà, moi le kibboutz c'est du concret et je pourrais tout à fait imaginer pour X raisons d'y revenir pour travailler.
Marie-Josée Saliou, vous êtes allée plusieurs fois en Israël. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de kibboutz utopie ?
Oh ben je ne l'ai pas connu au début. Moi, je suis arrivée, quand je suis allée en Israël, les kibboutz étaient déjà en reconversion. Néanmoins, l'idée du kibboutz, j'ai beaucoup lu et ça m'a beaucoup inspirée dans ma jeunesse, pendant mes études et ensuite dans mon travail dans les crèches. Parce que bon, c'est important que les enfants puissent vivre quelque chose qui soit à eux, avec toutes les possibilités de développement, d'épanouissement, je dirais, en parallèle du travail des parents, et que ça ne devienne pas un métier d'enfant, comme on a parfois un peu tendance à le faire, parce que les enfants, ils ont une vie à vivre, et les parents ont besoin d'être au courant de cette vie, qui peut être merveilleuse. Je sais que dans les kibboutz, comme le disait Yves, je pense qu'il a dû avoir des expériences de ce type, parce qu'on ne les a pas inventées, nous, quand on a créé les crèches ouvertes sur l'épanouissement des enfants et autres. Mais c'est ce lien, travail, vie des enfants, développement des potentiels, et puis amour, et puis découverte, parce que on peut faire plein de découvertes entre 6 mois, entre même 2 mois et 3 ans, et après.
Alors, je vais vous raconter une expérience qui m'a drôlement étonné, interpellé. J'étais en Israël avec mon épouse, il y a déjà quelques années, et on est allé visiter une école d'enfants, un gan, mais d'enfants, de petits-enfants. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la cour ? Un amas d'objets, des tricycles, des motos, des morceaux d'avion, des tracteurs, tout mélangé comme ça. Alors on leur a dit, mais c'est quoi ça ? Alors ils nous ont dit, ben, il faut que les enfants apprennent à toucher ces objets, à voir ces objets. Je dis, mais en France, ce serait absolument interdit. On aurait tellement peur d'un accident. Ah non, non, mais ici, il n'y a pas d'accident. Et il faut que les enfants s'habituent à tous ces objets. Et ça m'a beaucoup étonné. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience, vous qui avez beaucoup travaillé avec les enfants ?
Ah ben, l'objet est essentiel dans le développement de l'enfant et dans ses apprentissages, dans ses découvertes, que ce soit sur le plan de moteur ou sur le plan du langage. L'objet sert à l'enfant à mettre des verbes, déjà. Se servir d'objet, c'est avancer, c'est tout la découverte de l'espace, du temps, enfin c'est tout. L'objet, c'est très important. Et après, il y a l'image. Mais d'abord, c'est l'objet. Mm-hmm. Et l'objet d'amour.
Alors, on va parler d'objet. Ça va me servir à une transition, l'objet. Parce que je voudrais maintenant qu'on parle de ce que tu avais exposé, Yves, lors d'une université d'été en 2017, tu te souviens, tu avais amené un tas d'objets justement, et je voudrais que tu nous en parles et que tu nous dises la symbolique. Si tu as besoin que je t'en... Non, non, mais on en a parlé, tu t'en souviens.
2017, non, oui. Parce que souvent je confonds avec l'histoire de... du sport et la Shoah, voilà, où là, oui. Véritablement, oui, donc c'est tout à fait ça. Alors quoi dire, parce qu'on l'avait évoqué d'une certaine façon, le sport et la Shoah, de toute façon, c'était un thème extrêmement important, essentiel, et je crois que nous sommes au cœur du problème de l'antisémitisme, enfin de l'éclosion fulgurante de l'antisémitisme si ancestral et si présent. Et d'où l'idée, je dirais, d'imaginer que dans ce monde nazi, entre autres, on ne peut pas imaginer qu'un juif puisse être un athlète. Donc c'était un sous-homme, c'était quelqu'un de... On n'était pas loin de le représenter... Enfin, oui, il y avait l'idée de la bestialité et tout ce que ça pouvait engendrer comme horreur. Donc, et de quelle façon présenter des créations sur un thème si fort, malgré tout, sans être... entrer dans de nouvelles images qui ont pu circuler et qui peut-être n'auraient pas intéressé autant, je dirais, le jeune public. Donc j'ai essayé d'être proche de ce qui était l'objet, l'élément présent et leur imaginaire actuel. Donc, par exemple, j'ai pris un skate où, effectivement, il y a des personnages qui sont alignés d'une façon drastique. Et ça représentait, pour moi, les Jeux Olympiques de 36. Voilà, par exemple, un exemple où il y avait... donc, je n'ai pas signifié d'étoile jaune, par exemple. Donc, je n'ai pris qu'un personnage jaune pour signifier cette étoile. Les autres étaient habillés de rouge, effectivement, avec un écusson de croix gammée. Donc, j'ai essayé d'apporter des éléments actuels à chaque fois pour que ça parle, puisqu'il y a comme une sorte de rébellion, de se dire la Shoah, bon, c'est trop, on en parle de trop, etc., etc. Donc, comment amener un regard, je dirais, peut-être apaisé et créer de l'intérêt, en fait. Donc, c'était la gageure de... Et puis, par exemple, oui, ces personnages que j'évoquais, ou jaunes ou rouges, c'était des baby-foot que j'ai récupérés dans la rue. Et là, j'ai gardé tous ces hommes, tous ces footballeurs qui n'ont pas de bras, donc ils sont traversés de fer. Donc, pour une autre installation, je les ai logés dans des boîtes à lettres anciennes de Marseille, comme un meuble autonome, où chacun est dans sa cellule, en quelque sorte. Voilà, donc j'ai essayé d'apporter... C'est difficile d'en parler, il est préférable de voir. Mais tel était mon esprit, c'est essayer d'amener à cette problématique qui a existé, très grave, et qui est actuelle, vu tout ce qui se passe, pour les jeunes générations, ou les moins jeunes aussi, pourquoi pas.
Ben moi, j'ai été très frappé par ces objets que tu as présentés lors de cette exposition. Cette boîte aux lettres qui était à moitié déglinguée, ces petits bonhommes de baby-foot qui étaient là, qui étaient très représentatifs, et puis l'autre, celui qui était tout à fait devant, hein, tu en as parlé. Voilà.
Le skate. Oui, voilà, par exemple, c'était un... Et j'ai évoqué ça aussi avec des éléments de sport. Là, c'était le football, donc ces personnages baby-foot, hein, puisque c'était le sport, les Hachora. Le skate, c'est bon, voilà, effectivement, il n'existait pas de skate a priori en 36. Et après, maintenant, bon, c'est un sport qui, je dirais, court les rues. Non, je sais
pas. Bien.
Donc, j'ai essayé de parfaire à tout cela.
Alors, je me pose une question, je reviens un petit peu en arrière, comme ça, il nous reste quelques minutes. Comment le Kubo va-t-il atteindre le Negev ? Qui est-ce qui réfléchit à ça ?
Eh bien, déjà, il faudrait que Israël en fasse la demande, par exemple, ou que le proposer, et puis qu'il vienne, peut-être par voie de mer, pourquoi pas, mais peut-être il serait mis dans une soute d'avion et il viendrait, il atterrirait.
Marie-Josée, salut. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est intéressant. Comment la construction du Kubo avec l'entreprise Meta mérite qu'on en parle, et pour voir aussi le rôle de l'entreprise, parce que l'entreprise peut être intéressée par...
Oui.
Sa migration vers le Negev.
Oui, c'est vrai. Merci Marie-Josée de souligner effectivement. Donc, ce cubo, il y a eu des cubes de parlement de fait, artistiquement ou autre. Là, c'est un cube qui flotte. Donc, c'est tout à fait. Il a une autre incidence, bien évidemment. Et donc, je voulais absolument un cube qui soit flottant. Donc, on a réussi, la personne qui travaillait avec moi, on a réussi à avoir le contact avec Meta Chantier Naval, qui se trouve à Tarare, et qui a accepté de jouer. jouer le jeu de réaliser ce cube qui est très très qui est tout de même très grand avec
alors justement
leur
très grand
technologie.
Quelles sont les dimensions?
2m80.
Il fait 2m80 hein, mais quand il est sur sa pointe, ça l'élève. Donc voilà. Donc il est fait en aluminium strong alloy, ce qui est la spécialité de Méta-Chantier Naval. Il est creux. Il est lesté d'une quille qui peut être enlevée ou remise. Donc c'est, voilà.
Il est totalement creux, il n'y a rien
dedans.
Il
est totalement creux, mais c'est un travail très important parce que chaque face de ce cubo pourrait être d'une rigueur absolue dans ses aplats, disons, hein, oui. Pour le construire. Alors que là, il y a un savoir-faire inouï, et déjà de soudure, parce qu'il faut souder toutes ces faces. Et d'une façon infime, il y a un léger galbe, mais c'est quelque chose de presque de l'orfèvrerie. Donc ça a été une aventure extraordinaire, cette possibilité de l'avoir enfin et de le voir flotter à Marseille et ailleurs d'ailleurs.
Et les faces de ce cubo, elles sont comment? Elles sont décorées? Elles sont pastillées? Elles sont colorées?
Elles sont pas pastillées, c'est peint avec des volutes, je dirais, de ce que pourrait évoquer la mer. Donc, gamme de bleu, essentiellement.
Vous l'avez vu?
Oui. Non, je l'ai vu en rêve. Je l'ai vu en rêve et je l'imagine avec plein d'enfants, avec plein de cubes, des petits cubes qui accompagneraient le cubo.
Oh, quelle belle idée! Accompagner le cubo par des petits cubes.
Par des enfants et des cubes, parce qu'on dit toujours les enfants et les cubes. Je crois que...
Il y a quelque chose qui me vient, mais je ne sais pas si on en a le temps, parce que...
Il nous reste 5 minutes.
A été évoquée l'histoire de ces enfants qui ont rassemblé des éléments ferrugineux et qui devaient évidemment exciter leur mental. Et on oublie, effectivement, ça se passait dans un kibboutz. On oublie que c'est un village, en quelque sorte, le kibboutz, et qu'il y a des allées, des routes, entre guillemets, et qu'on laisse toute l'attitude à déjà aux enfants de pouvoir s'exprimer, de regarder. Et moi, j'y vois déjà presque comme du street art accepté. Et alors que dans nos sociétés ultra-urbanisées maintenant, on laisse... ça devient, je dirais, dangereux.
Aseptisé.
C'est donc société aseptisée de galeries. Et en fait, les très jeunes ont envie, et c'est eux qui ont mis en marche l'idée de se mettre en confrontation avec le phénomène artistique et de s'employer à faire quelque chose. Donc eux deviennent des pirates, alors qu'en Israël, dans les kibboutz, c'est évident, on laisse s'exprimer. Donc voilà encore aussi deux attitudes d'éducation différentes qui se proposent. Moi, oui. j'ai été obligé, par exemple, de lancer en 1999 des feuilles dans les arbres pour évoquer la végétation dans le monde citadin. Et des feuilles dites électroniques, par exemple.
Oui, c'est... Alors, justement, en street artist. Les feuilles électroniques. On a une minute ou deux.
Feuille électronique, tout simplement, c'est le suivi de mes pixels sur certains murs, mais d'une façon éphémère, je dis bien, ou dans d'autres lieux. Et je voulais évidemment penser à l'histoire de la nature qui est des fois très pauvre dans notre monde citadin. Et que fait-on de la nature? Donc je voulais évoquer ce côté passe-muraille végétal en lançant des feuilles dites électroniques. Que je lance à ma façon et qui des fois sont connectés avec des sons, avec des télécommandes.
Marie-Josée Seliou, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? En une minute, c'est tout ce qui nous reste.
Des feuilles électroniques? Oui. J'avoue que je ne l'ai pas vu et je... Voilà, j'ai pas vu.
C'est enchantant, je trouve.
Sont les feuilles d'automne, je sais pas.
Ben ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand les arbres sont touffus avec toutes leurs feuilles, et bien cette feuille électronique, on ne la voit pas, mais elle persiste. Et quand les feuilles commencent à tomber, subitement, on voit une feuille particulière de style électronique, pixel, et qui reste là accrochée. Et donc évidemment, les gens se posent des questions. Voilà, mais donc je reviens à dire, c'est le passe-muraille. Végétal.
Eh bien, Marie-Josée Seliou, Yves Yacoel, je vous remercie pour cette belle discussion. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera pour une autre émission.
Avec plaisir.
En tout cas, merci infiniment d'avoir été invité.
C'était un plaisir.
Merci.
Chers amis, bonsoir. Non pas la semaine prochaine, car la semaine prochaine, c'est un jour particulier et je serai pris dans l'organisation. Mais s'il faut, je mettrai une rediffusion. Et en tout cas, dans 15 jours. Bonne soirée, au revoir.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.